Merci pour cette présentation exhaustive. Alors, je vais vous parler d'un domaine qui est assez controversé, à vrai dire. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle le principe anthropique de anthropos, l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'entropie thermodynamique, bien sûr. Et puis, le réglage fin, qu'on appelle aussi fine-tuning en anglais, c'est le fait que les constantes physiques sont telles que, ma foi, l'univers, apparemment, est capable d'abriter la vie. On reverra ça de manière un peu plus détaillée, mais le plan de mon exposé est le suivant. Donc, je vais d'abord introduire brièvement la notion de principe en science, pour ceux qui ne sont peut-être pas très familiers de la démarche scientifique. Ensuite, on verra, du point de vue historique, la manière dont la place de l'homme ou le statut de l'homme dans l'univers, parce que c'est ça finalement le sujet profond de cet exposé, a été, envisagé au cours des âges. Alors on fera un survol extrêmement rapide en trois étapes au maximum pour mettre en évidence une dichotomie intéressante entre les temps modernes et l'Antiquité. Ensuite, on verra dans quelle mesure et pourquoi, en fait, notre univers a bel et bien une histoire tout à fait particulière, et cela a presque naturellement engendré ce qu'on appelle maintenant le principe anthropique. On verra aussi quelle est l'utilité de ce principe, si on a une, et enfin, on conclura sur une note de prudence, disons. Alors, qu'est-ce qu'un principe en science? Eh bien, c'est quelque chose de très général, ça peut être une hypothèse de travail, ça peut être aussi une sorte de boussole pour orienter une saine pratique de la science, comme l'est le principe d'économie d'hypothèse, qu'on appelle en général le rasoir d'Occam. Occam était un moine franciscain du XIVe siècle qui a énoncé ce principe. C'était à la fois un philosophe, un théologien, et quelqu'un d'extrêmement formé. Et c'est clair, ce principe signifie simplement qu'entre deux hypothèses ou deux théories que vous avez à disposition pour expliquer un phénomène, eh bien, c'est la plus simple qui a le plus de chances d'être la vraie et la plus efficace. Un autre principe extrêmement utile et pratiqué en fait implicitement par tous les cosmologistes du monde, c'est le principe dit cosmologique, évidemment, qui postule qu'aux grandes échelles, eh bien, l'univers est à la fois homogène et isotrope. Ça signifie que si vous prenez un morceau d'univers suffisamment grand quelque part, ou bien complètement ailleurs, les propriétés moyennes de ce morceau d'univers devraient être les mêmes. Par exemple, la densité moyenne de votre cube que vous aurez découpé dans l'univers. À gauche, vous voyez la répartition des galaxies. Il y a un code de couleur. La densité de galaxies maximum, c'est en blanc, etc. Donc, vous voyez des espèces de marbrures, mais qui sont aléatoires. Et puis, à droite, vous voyez le résultat d'un grand survey de galaxies où les distances ont été attribuées à partir du décalage vers le rouge via la loi de Hubble, et vous trouvez dans ces espèces de tranches de tarte assez fines des structures filamenteuses le long desquelles les galaxies sont réparties. Hein. Chaque galaxie est un point pratiquement dans un diagramme comme ça. Et donc on voit que ce principe cosmologique qui a été postulé avec une certaine audace, mais sans lequel on ne peut pas faire de cosmologie du tout, eh bien, est justifié a posteriori de manière assez satisfaisante. Alors passons maintenant à ce petit survol historique. Comment la place de l'homme dans l'univers, comment son statut a été perçu, en tout cas, disons, dans notre région, je ne parle pas de l'Extrême-Orient, mais prenons l'Antiquité avec les Hébreux, ce texte que vous connaissez bien, hein, le psaume 8, « Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couvert de gloire et de magnificence, etc. » On voit là une affirmation massive avant tout de la souveraineté de Dieu en tant que créateur du monde, mais en même temps la constatation que le monde est immense. Et, l'auteur, qui est vraisemblablement David, il y a donc 3000 ans de cela, serait sans doute ravi de voir les résultats de la cosmologie actuelle et à quel point l'univers est sans doute encore plus grand que ce qu'il imaginait. D'un autre côté, et c'est pourquoi j'ai parlé de dichotomie, à peine quelques siècles plus tard, disons cinq, six siècles plus tard, vous avez les atomistes grecs, Leucippe, Démocrite, Épicure, suivis de disciples comme Lucrèce au 1er siècle avant notre ère, qui était donc romain, et qui a vulgarisé la doctrine atomiste dans son fameux ouvrage De Rerum Natura, de la nature des choses, où il dit ceci à propos des atomes, donc la notion d'atome était déjà avancée, car ce n'est certes pas point par réflexion, ni sous l'emprise d'une pensée intelligente, que les atomes ont su occuper leur place. Ils n'ont pas concerté entre eux leur mouvement, mais il est arrivé qu'après avoir erré durant des siècles, tenté unions et mouvements à l'infini, ils ont abouti enfin aux soudaines formations massives d'où tirèrent leur origine ces grands aspects de la vie, la terre, la mer, le ciel, les espèces animales. Et puis ailleurs, il dit encore, j'oserais affirmer que la nature n'a pas été faite pour nous et qu'elle n'est pas l'œuvre des dieux, tant l'ouvrage laisse à désirer. Donc, il y a cette affirmation massive là, mais exactement dans l'autre sens que dans le cas du roi David, que cet univers implicitement existe de tout temps, c'est un espace, pour les physiciens, un espace à la Newton, n'est-ce pas, un espace absolu dans lequel circulent des atomes qui s'allient avec d'autres et puis qui se défont. Donc vous avez toutes sortes de mondes qui apparaissent, qui disparaissent, tout évolue, tout change. Et il est clair que le monde vivant est le fruit du hasard et qu'il n'y a pas d'intention créatrice là-derrière. Et d'ailleurs, le but essentiel de la doctrine atomiste était, et c'est explicitement expliqué par Lucrèce, de libérer l'humanité de la croyance aux dieux. Évidemment, à l'époque, c'était le polythéisme qui régnait, mais la croyance aux dieux était déjà considérée comme une sorte d'opium du peuple dont il fallait se débarrasser à tout prix, et on retrouve là un discours assez connu, n'est-ce pas? Alors, sautons le Moyen-Âge et passons directement à la Renaissance avec la révolution copernicienne. Donc, vous savez que Copernic, au XVIe, a décentré la Terre de l'univers, n'est-ce pas? La Terre était considérée d'abord comme le centre, avec les planètes, le Soleil tournant autour. Et puis, on a passé à un système héliocentrique où la Terre n'est plus qu'une planète parmi d'autres. Alors, ce décentrement qui fait de l'homme, finalement, le passager d'un vaisseau très, très quelconque, a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant le principe copernicien, que d'autres appellent le principe de banalité, selon lequel ben voilà, la Terre est une planète parmi d'autres, et en plus de ça, le Soleil lui-même, avec tout son cortège de planètes, n'est qu'un système solaire parmi d'autres, tournant autour d'une galaxie qui n'est qu'une galaxie parmi d'autres, parmi de nombreux milliards qu'on observe. Et si on extrapole ce principe à l'humanité elle-même, eh bien, ça donne ces spéculations sur la pluralité des mondes habités dont a parlé, par exemple, Giordano Bruno à la fin du XVIe. Je parle de cette révolution copernicienne parce que, justement, c'est très pertinent dans notre contexte, puisque, en fait, le principe anthropique vient un petit peu à l'encontre de ce principe copernicien, on verra comment. Maintenant, passons au temps moderne, au milieu du XXe siècle. Vous avez un homme comme Teilhard de Chardin, donc fervent catholique, jésuite et paléontologue en même temps, qui a une conception, qui tient à réconcilier la notion d'évolution biologique avec la foi chrétienne, ou du moins la foi catholique. Et il le fait de manière très poétique, peu convaincante pour beaucoup, et même hérétique pour la hiérarchie de l'époque, qui a mis son œuvre à l'index. Et il disait, centre de perspective, l'homme est en même temps centre de construction de l'univers. L'homme non pas centre statique du monde, comme il s'est cru longtemps, mais axe et flèche de l'évolution. Alors, il n'y a pas d'allusion explicite à un Dieu créateur ici, mais il est clair que Teilhard y croyait. Donc, on a comme une sorte d'écho moderne au psaume 8, d'une certaine manière, hein, au sens large du terme. Par ailleurs, exactement à la même époque, vous avez un athée, biologiste d'ailleurs, bien connu, qui écrit dans ses Pensées d'un biologiste « D'où vient l'homme ?» Accident entre les accidents, il est le résultat d'une suite de hasards. Et puis dans un aphorisme assez brutal, il décrit ailleurs « L'homme est un miracle sans intérêt ». Donc vous voyez la résurgence ici de ce point de vue atomiste, en fait, où voilà, tout ce qui existe est quelque chose d'aléatoire, et puis l'homme n'est qu'une moisissure superficielle et accidentelle sur un grain de sable qui tourne quelque part autour d'une étoile dans l'univers. Pourtant, la grande révolution, je dirais, du XXe siècle, au point de vue astronomique, il me semble que c'est une révolution vraiment importante, bien qu'on n'en parle pas beaucoup de cette manière-là, en tout cas, c'est la découverte que l'univers a bel et bien une histoire. Ce n'est pas un univers statique qui existe de tout temps et qui existera de tout temps, où les choses se développent mais se défont aussi. Vous partez d'un état extrêmement dense et chaud, qui est ici désigné par singularité. Alors aujourd'hui, on discute ce statut de singularité qui n'en est plus une selon les interprétations quantiques, mais peu importe. Ce que vous voyez là, c'est avant tout le fait que l'axe des temps est vertical, n'est-ce pas ? Donc, à une certaine époque, les galaxies sont éloignées d'une certaine distance, et puis à une époque plus lointaine, elles sont davantage éloignées, proportionnellement d'ailleurs à leur distance. Et on a là quelque chose de totalement différent de l'univers imaginé par les atomistes antiques, qui, eux, voyaient un univers éternel où le hasard a tout le loisir d'arranger les choses, n'est-ce pas ? Vous pouvez construire toutes sortes de... du moins, en principe, en pratique, ça reste encore à vérifier, mais en tout cas, une réflexion superficielle laisse penser qu'on peut construire des choses arbitrairement compliquées par le seul jeu du hasard, pourvu qu'on attende assez longtemps. C'est l'histoire, la fameuse histoire du singe qui tape à la machine suffisamment longtemps pour écrire l'œuvre de Shakespeare. Et puis, voilà que tout à coup, on découvre que l'univers n'est pas infini dans le passé, mais qu'il a quelque chose comme un commencement, comme disait Sylvain, même si certains contestent le fait qu'il s'agit réellement d'un commencement physique, peut-être y aurait-il quelque chose qui aurait précédé, qui sait. Néanmoins, l'univers a évolué de manière extrêmement spectaculaire, et là, le hasard commence à stresser à cause du fait qu'on lui demande de réaliser en 14 milliards d'années seulement un univers extrêmement contrasté avec des structures très compliquées, y compris vous et moi, qui, c'est vrai, sommes parfois même trop compliqués. C'est ce qu'on appelle maintenant la cosmologie du Big Bang, dont les pères sont Friedman, un russe quasi inconnu à l'époque, au début des années 20, mais qui a compris que les équations d'Einstein admettaient une solution dynamique. L'abbé Lemaître, qui est au fait le principal père du Big Bang, je dirais, et puis Georges Gamow, qui a prévu l'existence du rayonnement de fond cosmologique, le rayonnement fossile. Alors, ce modèle standard, vous l'avez résumé dans cette espèce de cloche, c'est pourquoi j'ai paraphrasé le peintre Magritte ici, avec son tableau représentant une pipe, avec écrit « Ceci n'est pas une pipe », simplement pour rappeler que la représentation diffère assez fortement de l'original, et c'est vrai que les échelles ne sont pas toutes parfaitement respectées, en particulier pour la phase de l'inflation qui dure une minuscule fraction de seconde et fait s'expandre l'univers sur plusieurs dizaines d'ordres de grandeur. Ensuite, cette inflation est suivie par une expansion qui continue, mais à un rythme beaucoup plus lent, et l'univers devient transparent après 400 000 ans, grosso modo. C'est le moment où les électrons se combinent avec les protons et les noyaux d'hélium. Et à ce moment-là, la lumière peut circuler librement dans l'univers, alors qu'avant, elle était diffusée par les électrons libres et rendait l'univers quelque peu brouillardeux, si on peut dire. Après, vous avez des âges sombres qui sont dus au fait qu'aucune étoile n'existait. Alors, il y avait le rayonnement de fond, bien sûr, qui était beaucoup plus chaud que maintenant, mais pas d'étoiles, du gaz qui s'expand tranquillement. Et puis, au bout de quelques centaines de millions d'années, les premières étoiles apparaissent parce que les fluctuations de densité du gaz primordial se sont amplifiées grâce à l'action de la gravité. Sans gravité, pas de grandes structures dans l'univers. Alors, vous voyez cette histoire qui est tout à fait extraordinaire. Vous avez d'abord, vous voyez, la cloche se resserre un peu, ça signifie que l'expansion ralentit d'abord, et puis ensuite elle s'évase. Donc chaque tranche ici que vous avez représente un milliard d'années. Et vous avez à peu près 14 milliards d'années depuis le tout début. Donc vous avez vraiment un changement très très fondamental de l'aspect de l'univers en fonction du temps. Et c'est cette histoire assez particulière qui a, je pense, poussé Brandon Carter, un cosmologiste, à énoncer ce qu'il a appelé le principe anthropique en 1973 lors d'un colloque sur le 500e anniversaire de la naissance de Copernic, en disant ce que nous pouvons nous attendre à observer doit être compatible avec les conditions nécessaires à notre présence en tant qu'observateur. Bon, c'est un énoncé qui est fort simple, ça veut dire tout simplement que l'univers ne pouvait pas être observé à n'importe quelle époque de son histoire, puisque, par exemple, à l'époque de la création des premiers éléments, l'hydrogène et l'hélium, ça veut dire dans les trois premières minutes, il était impossible d'avoir un être vivant là-dedans qui observe l'univers tel qu'il était à cette époque-là. C'est trivial, mais encore faut-il le dire. Et Carter dit qu'il a forgé ce principe anthropique en réaction à l'idée trop communément admise que l'univers est partout identique et que notre situation est tout à fait quelconque. Et c'est le réflexe normal du physicien qui considère que les théories doivent être invariantes par rapport à l'observateur. Donc c'était une attitude normale, surtout à la suite du principe copernicien. Et lui met le doigt sur le fait que, en réalité, qu'on le veuille ou non, nous avons une position privilégiée dans l'espace-temps. Alors j'insiste sur le terme temps, puisque c'est surtout dans l'axe des temps que nous avons une position privilégiée. Maintenant, ce principe anthropique prend deux formes. La forme faible d'une part, qui dit simplement notre position dans l'univers est nécessairement privilégiée en ce sens qu'elle doit être compatible avec notre existence en tant qu'observateur. Et ça induit une explication anthropique aux valeurs des constantes physiques, parce que le problème est que vous n'avez aucune théorie, du moins pour l'instant, qui vous dise pourquoi la constante de gravitation doit avoir telle valeur et pas telle autre, pourquoi la force électromagnétique doit avoir telle valeur et pas telle autre, etc. Et une manière d'expliquer ça, c'est de prendre une explication a posteriori et de dire, si ces constantes prenaient une autre valeur, peut-être l'univers serait-il stérile. Et nous ne serions pas là. La forme forte est plus téléologique, si je puis dire, ou plus finaliste, puisqu'elle dit « l'univers, et donc les paramètres fondamentaux dont celui-ci dépend, doit être tel qu'il permette la naissance d'observateurs en son sein, à un certain stade de son développement. » Donc vous avez ce terme « doit » qui suppose une nécessité. Certains vont jusqu'à dire « je pense, donc l'univers est », n'est-ce pas? Ça, c'est la forme la plus extrême du principe anthropique fort. Alors, c'est évidemment une position essentiellement métaphysique, bien sûr. Alors, un exemple de démarche anthropique, je l'emprunte à l'histoire. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé avant que le principe anthropique soit énoncé en tant que tel. Ça relève de questionnement de certains physiciens quant à la coïncidence de grands nombres. Le premier à travailler là-dessus a été Eddington, un pionnier de l'astrophysique dans les années 20, et puis Dirac, et puis Robert Dicket aussi. Vous pouvez définir en particulier, il y en a d'autres que cela, mais deux nombres ici. Le premier, c'est le rapport, si vous voulez, de l'énergie d'un photon à l'énergie gravitationnelle qui règne entre deux protons éloignés d'une longueur d'onde. Et vous trouvez quelque chose qui est proche de 10 puissance 40. Bon, en fait, 10 puissance 38 fois un facteur 2. Et puis l'autre nombre, c'est C sur H0. H0, c'est la constante de Hubble dans la loi que la vitesse de récession d'une galaxie est proportionnelle au temps, V égale H0 fois T. Fois la distance, excusez-moi. Et C sur H0, c'est une longueur qui est la taille typique de l'univers observable, divisée par RP, qui est une sorte de rayon typique du proton, qu'on peut exprimer avec ses grandeurs fondamentales de la physique, la masse du proton fois la vitesse de la lumière au carré sur la constante de Planck, multipliée par l'âge de l'univers. TU, c'est l'âge de l'univers que nous mesurons actuellement. Et ça, c'est aussi de l'ordre de 10 puissance 40. Alors vous me direz, ouais, mais il y a 38 et puis il y a 41, ça ne marche pas tout à fait, mais ça ne fait rien. On parle d'ordre de grandeur et puis on pense large, n'est-ce pas? Alors la question était, pourquoi diable est-ce que N1 est de l'ordre de N2? Et alors Dirac a proposé une solution purement physique, qui n'est plus valable actuellement, donc je passe ce détail, surtout à cause du temps qui passe. Mais Dicke, lui, a fait une remarque de nature tout à fait anthropique en disant, j'ai noté ça en langage mathématique, là, il existe un observateur si et seulement si il existe aussi, d'abord, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fer, enfin tout ce qui est nécessaire à construire un être vivant comme nous. Par conséquent, l'univers, et c'est un peu le titre « Patience dans l'azur » de Hubert Reeves, n'est-ce pas, il faut avoir la patience d'attendre qu'au moins une génération d'étoiles ait passé pour que les aimants lourds soient construits au sein de l'étoile, parce que les éléments qui ont été créés au Big Bang ne sont que l'hydrogène et l'hélium, avec des traces de lithium, mais c'est tout. Tous les autres éléments, carbone compris, ont été faits cuits, d'une certaine manière, au centre des étoiles, et en particulier au centre des plus massifs d'entre elles, qui ont explosé en supernova ensuite, polluant le milieu interstellaire. Et c'est seulement une deuxième ou une troisième génération d'étoiles qui, se formant à partir de ce milieu, a pu contenir des éléments plus lourds, et surtout être accompagné d'un disque de poussière et qui s'est finalement agrégé en planètes. Donc les planètes ne peuvent exister évidemment qu'après la création des éléments lourds. Et c'est la remarque qu'a faite Robert Dicke. Ensuite, on peut exprimer la durée de vie d'une étoile aussi à partir de constantes de la physique, et purement à partir d'une combinaison de constantes de la physique, et on obtient quelque chose que j'ai désigné ici par T étoile. Donc ça, c'est la durée de vie d'une étoile, c'est à peu près H bar C sur GMP carré, fois, enfin voyez, ça dépend de la masse du proton, de la force de la gravité surtout, grand GMP carré, et puis de la vitesse de la lumière. Et vous reconnaissez dans le premier terme de gauche ici, le nombre N1 qu'on a en haut, voyez. Donc, l'âge de l'univers doit être au moins plus grand ou égal, ou du même ordre en tout cas, que le temps de vie typique d'une étoile. Et donc, si on replace l'âge de l'univers par le temps de vie d'une étoile en haut à droite, eh bien, on trouve précisément que N2 est égal à N1. Voyez. Donc, vous avez une explication tout à fait naturelle, mais basée sur le fait qu'il existe des physiciens et des astrophysiciens qui regardent l'univers et qui mesurent l'âge de l'univers. Et il n'est pas étonnant que leurs mesures donnent un résultat qui est du même ordre à peu près que la durée de vie d'une étoile. Il fallait attendre tout ce temps-là pour que, certains diraient, l'univers prenne conscience de lui-même, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi une expression d'Hubert Reeves. Alors évidemment, la question, maintenant qu'on a des modèles d'univers, surtout, on a comme outil la gravitation, la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, on peut créer des modèles d'univers avec des paramètres qu'on peut ajuster, parce que on n'a pas de théorie générale qui nous impose les conditions initiales de l'univers. Et puis on peut se dire, mais qu'est-ce qui se serait passé si l'univers avait été un petit peu différent, avec une constante de la gravitation grand G un peu plus faible ou un peu plus forte, ou bien l'interaction forte qui lie les nucléons ensemble, hein, les protons et les neutrons, qui ont la même charge électrique, mais qui sont tenus ensemble par une force plus grande que la force électrostatique. Si on change un petit peu ces interactions, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a deux aspects. Il y a d'une part la géométrie de l'univers à très grande échelle, et puis il y a justement les constantes de la physique. Alors, cette géométrie, vous avez ce dessin ici qui est dû à Martin Rees, l'astronome royal, dans une de ses publications qui date déjà un peu. Mais enfin, le principe est toujours le même. On ne tient pas compte de l'énergie noire ici qui fait s'accélérer l'expansion, mais ça ne gêne pas l'argumentation. Donc vous avez ici le rayon typique de l'univers, que vous pouvez choisir comme étant la distance entre deux galaxies quelconques, mais suffisamment lointaines, en fonction du temps. Et puis, selon le modèle que vous prenez, vous pouvez avoir un univers qui s'expand jusqu'à un certain point, et puis après qui retombe sur lui-même. Donc c'est un ballon qui se gonfle, et puis ensuite qui se ratatine sur lui-même, et vous finissez avec un Big Crunch, qui est le symétrique du Big Bang. Alors évidemment, là, sur ce dessin, par exemple, vous avez un Big Crunch après un temps de vie, un temps qui est typique du temps de vie du Soleil, par exemple. Donc, c'est assez clair que dans cet univers-là, vous auriez un peu de peine à créer de la vie. Et puis, inversement, si vous avez un univers qui se dilate extrêmement vite, à ce moment-là, ça ne laisse pas à la gravitation le temps de former des grumeaux, d'augmenter le contraste de densité. Et puis, vous n'avez pas de grandes structures qui se forment, pas d'étoiles non plus, pas de galaxies. Donc là aussi, pas de vie vraiment, parce que même s'il y a même si on pouvait imaginer de créer quelques étoiles et quelques éléments lourds, ils seraient vite dispersés par la vitesse de l'expansion. Donc, vous avez une zone permise ici, en H-Urée, qui est relativement étroite et qui impose, de par le fait même que nous existons, une sorte de contrainte au type d'univers qu'on peut envisager. Maintenant, les constantes de la physique. Alors, il y a plusieurs aspects ici. On peut même s'interroger sur le nombre de dimensions. Pourquoi est-ce qu'il y a trois dimensions spatiales et une dimension temporelle? Avec un peu d'imagination, on peut imaginer même plusieurs dimensions temporelles, auquel cas ça pose de sérieux problèmes quant aux relations de cause à effet. Et vous avez ce diagramme qui vous montre le nombre de dimensions temporelles en fonction du nombre de dimensions spatiales. Alors, nous sommes dans le carré blanc, n'est-ce pas? Et c'est clair que si vous prenez deux dimensions spatiales seulement, vous aurez un peu de peine à créer des êtres suffisamment complexes pour donner finalement ne fût-ce que des mammifères, n'est-ce pas? Et à plus forte raison des hommes et des femmes, conscients d'eux-mêmes. Si vous avez plus de trois dimensions spatiales, alors si, évidemment, la loi de la gravitation ou bien de l'électromagnétisme est la même ou peut être généralisée de la manière la plus simple, alors vous aurez des atomes instables, les électrons ne vont pas rester en orbite autour et les planètes ne vont pas rester non plus en orbite autour des étoiles. Et puis, si vous avez plus d'une dimension temporelle, votre système devient complètement imprédictible et chaotique. Voilà, donc ça, c'est déjà un point. Et puis, l'autre aspect, alors, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais pourquoi les forces électriques et magnétiques et fortes, pardon, il s'agit de la force forte nucléaire, et des forces électromagnétiques, pourquoi est-ce qu'elles ont les valeurs qu'elles ont? Et vous avez ici porté cette fois en Y l'interaction forte, caractérisée par un alpha strong, le paramètre qui mesure la force de cette interaction, en fonction de la force de l'interaction électromagnétique. Et nous sommes dans le petit carré noir ici, entouré de flèches, et certains auteurs se sont amusés à voir qu'est-ce que ça donne si on diminue l'interaction forte, par exemple, et on constate que en diminuant l'interaction forte pour la même interaction électromagnétique, eh bien, on tombe sur une limite où le deutérium n'est plus stable. Deutérium, c'est-à-dire un proton et un neutron, c'est l'hydrogène lourd, qui est un ingrédient nécessaire pour passer à la fusion en hélium et puis en carbone. Et puis, on a pu voir qu'il suffit en fait déjà d'une petite variation de l'ordre de 4% en interaction électromagnétique ou d'un 0,5% seulement en interaction forte pour décroître la production par les étoiles de carbone et d'oxygène d'un facteur de 30 à 1000, disons, ce qui est quand même assez considérable et pourrait sans doute compromettre la possibilité de faire des planètes avec de la vie. Maintenant, si vous voyez, vous avez des grands domaines, le domaine jaune, le carbone est instable, le domaine bleu-vert, vous avez des atomes qui sont tous radioactifs, et puis vous avez ce domaine pourpre, alors qui est controversé, c'est pourquoi j'ai mis un petit signe danger. Longtemps, la sagesse populaire a dit que si vous augmentez l'interaction forte, alors vous rendez stable le diproton, c'est-à-dire l'hélium-2, donc un noyau fait de deux protons, sans aucun neutron. Et l'efficacité de cette réaction, hydrogène qui donne des protons dans le cœur des étoiles, aurait vidé en fait tout l'univers de son hydrogène. Ou même, ça aurait pu se passer aussi au Big Bang, juste à l'époque de la production de l'hélium et de l'hydrogène. En réalité, il y a un travail récent de Bradford ici qui montre que ça n'est pas vrai, en fait. Il a regardé en plus en détail et montré que l'hydrogène, la production de diprotons pendant le Big Bang aurait été assez négligeable. Et puis même, par la suite, à l'intérieur des étoiles, il est tout à fait possible que les étoiles se soient adaptées à l'énergie produite en leur sein pour devenir moins chaudes dans le cœur. Et donc, cette prétendue catastrophe diprotonique, ou le diproton disaster en anglais, semble ne pas être réel, en fait. Donc, c'est une petite note de prudence pour ceux qui, peut-être, font trop confiance à certains travaux qui restent assez superficiels, n'est-ce pas? C'est comme en science classique, en fait. Ce genre d'exercice est parfois fait de manière un peu trop superficielle et on risque d'avancer des choses un peu à la légère. Cela dit, à quoi sert le principe anthropique? Pardon, d'abord en science et puis ensuite en apologétique, bien sûr. Alors, en science, les hommes de science sont des gens, les gens de science sont très pragmatiques. Tout ce qui peut servir l'exercice de la science, ils le prennent. Et puis, ce qui ne sert à rien, ils le jettent. Donc, la question est de savoir, est-ce que le principe anthropique a un pouvoir prédictif? Alors, c'est assez discuté parce que souvent, on dit oui, il y a certains cas où ça peut être prédictif, mais en général on le dit a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que les choses ont été trouvées par une démarche scientifique normale, on se dit après coup, ah ouais, mais si on avait accordé plus d'importance au principe anthropique, on aurait pu incliner la recherche plus dans une direction que dans une autre. Et c'est exactement la remarque que fait l'astronome royal ici, à propos de deux modèles concurrents qui existaient encore jusqu'à la découverte du rayonnement fossile. Il y avait donc le modèle du Big Bang tel que proposé par l'abbé Lemaître essentiellement, où l'univers se dilate et la densité de matière diminue au cours du temps. Mais il y avait un autre type d'univers qui, lui, avait le bon goût, si je puis dire, d'éviter la singularité initiale, voyez, qui était fort gênante, mais qui résulte aussi du fait qu'on n'a pas encore de théorie qui joigne la mécanique quantique et puis la relativité générale. Donc pour éviter cette singularité, et puis aussi ce problème du commencement qui était philosophiquement gênant, Bode, Hoyle et Gould, à la fin des années 40 déjà, avaient proposé un modèle d'univers, certes en expansion, mais avec création continue de matière. C'est-à-dire des atomes d'hydrogène paraissent spontanément dans l'espace, dans les vides laissés par, par l'expansion, de sorte à ce que la densité moyenne de l'univers restait constante. Du coup, si vous passez le film à l'envers, la densité n'augmente pas, et l'univers étant spatialement infini, vous avez un univers qui, finalement, est sans histoire, avec un mélange de galaxies jeunes et vieilles, partout, et semblable partout à lui-même, non seulement dans l'espace, mais aussi sur l'axe des temps. Vous voyez, principe cosmologique parfait, comme on l'a dit. Et alors, Ries fait une remarque là-dessus en disant, vous voyez, la constatation qu'a faite Robert Dicket, à savoir que l'univers est observé et a un âge qui coïncide à peu près avec le temps typique de vie d'une étoile. Cette coïncidence-là, elle peut être expliquée par le principe anthropique dans un univers à la Big Bang, si je puis dire, mais dans un univers stationnaire, comme celui de Hoyle, Bondi et Gould, il n'y a aucune raison pour cette coïncidence. Alors, bien sûr, ça n'a pas de sens dans le cadre de l'univers stationnaire de parler d'un univers qui a un âge, puisque l'âge est indéfini. Mais par contre, on peut toujours parler de ce qu'on appelle le temps de Hubble, c'est-à-dire le temps caractéristique, le temps qu'il faut, par exemple, pour que l'univers ou une région de l'univers augmente sa taille d'un facteur 2, par exemple. Ça, c'est le temps de Hubble qui coïncide à un facteur 2 près, par exemple, grosso modo pour le Big Bang, avec l'âge de l'univers. Donc on peut toujours définir, dans le cas de l'univers stationnaire, un temps de Hubble. Et puis, si on voit qu'il coïncide avec la durée de vie typique d'une étoile, alors l'énigme subsiste, n'est-ce pas? Parce que rien ne s'oppose, dans un tel modèle d'univers, à ce que la durée de vie d'une étoile soit ou bien beaucoup, beaucoup plus petite que le temps de Hubble, ou bien beaucoup, beaucoup plus grande, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison. Et donc, sa conclusion, c'est que si on avait pensé à ça avant 1965, où on a découvert le rayonnement de fond de ciel, on aurait peut-être regardé plus attentivement du côté du Big Bang. Il y a une autre prédiction, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler, parce que ça me ferait trop dépasser le temps, mais c'est l'histoire de la synthèse du carbone qui demande certaines coïncidences dans les caractéristiques du noyau de carbone sans lesquelles vous ne pourriez pas produire de carbone dans l'univers et donc pas non plus les éléments plus lourds. Ça, c'est Fred Hoyle qui a vu ça au début des années 50. Juste encore une mention sur les multivers. Alors, une interprétation possible de ces coïncidences anthropiques, c'est de dire, oui, mais il n'y a pas de finalité comme celle dont parlait Sylvain tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y a un dieu qui a finement construit son univers, c'est tout bêtement parce qu'en réalité, il y a une infinité d'univers parallèles. Enfin, la question de savoir comment plusieurs univers puissent cohabiter, être en même temps disjoints les uns des autres, n'est pas très claire. Mais le fait est que dans cette collection gigantesque d'univers, même si vous avez les mêmes lois physiques, vous avez peut-être des constantes de la physique qui sont un petit peu différentes d'un univers à l'autre. Et donc, la plupart de ces univers sont complètement stériles, il n'y a personne dedans, mais il se trouve que, évidemment, les seuls qui sont observés, c'est les univers où il y a quelqu'un dedans. Et donc, le nôtre, ben voilà, par hasard, il a été fécond. Et donc, on l'observe, et puis on se dit, oh merveille, c'est l'univers est fait pour nous, etc. Donc, l'avantage, entre guillemets, des multivers, c'est de réintroduire la banalité de l'humanité. Voyez. D'une certaine manière, le principe anthropique a tendance à recentrer l'homme au point de vue spirituel ou moral, si vous voulez, dans l'univers, si ce n'est au point de vue géographique. Et puis, le truc, si je puis dire, du multivers, c'est de réintroduire la banalité de l'humanité. Alors évidemment, le gros problème, c'est que il y a un problème épistémologique là-dedans, du fait qu'on postule au fond que toutes les possibilités sont réalisées dans tous les univers existants. Et en fait, le but de la science, c'est quoi? C'est de trouver des lois. Et qui dit loi dit contrainte, évidemment. Que ce soit les lois civiles ou les lois physiques, vous n'avez pas tout qui est possible. Donc, une nature où tout serait possible, toutes les situations, finalement, rend non seulement ça réintroduit la banalité de l'humanité, mais ça banalise la science et réduit sa signification à rien, en fait. Du point de vue philosophique, c'est du moins ce qu'on pourrait répondre à cette idée-là. Maintenant, il me faut terminer. Quelle est la valeur apologétique de ce principe anthropique? Alors, le fait est que l'univers a les caractéristiques nécessaires pour abriter la vie. C'est une question d'interprétation aussi. Hein. Si ce n'était pas le cas, donc on ne serait pas là pour en parler. Donc, il y a un côté tautologique, d'une certaine manière, à ce principe. Par ailleurs, le fait qu'un univers très légèrement différent du point de vue de la valeur des constantes physiques serait stérile, fait quand même réfléchir et suggère quand même une cohérence assez admirable. Et à ce titre-là, Dominique Lambert et Jacques Desmarais, qui ont écrit un livre dans les années 90 sur ce principe anthropique, suggèrent de le prendre comme un principe de cohérence. Et à ce titre-là, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable sur le plan scientifique. Et il est vrai que c'est quelque chose qui nous montre, qui nous fait prendre conscience d'une certaine manière de la solidarité ou du lien qui existe entre l'univers à très grande échelle, qui semble ne pas du tout nous concerner à première vue, et puis l'univers à l'échelle humaine ou à l'échelle microscopique. Donc, on voit en fait très clairement avec ce principe ce qui nous lie à l'univers à grande échelle, et on voit que l'univers à grande échelle n'est pas inutile. On pourrait se dire, on peut se contenter du système solaire, n'est-ce pas, à la rigueur de la galaxie, mais après, pourquoi diable toutes ces autres galaxies, n'est-ce pas? Alors, je dirais que principe anthropique, moi je le vois plutôt comme un argument, peut-être pas tellement vis-à-vis des incroyants qui ont déjà, en tout cas, vis-à-vis des gens en recherche peut-être, vis-à-vis des incroyants qui ont déjà leur vision du monde bien en tête et bien construite, je pense que ça a relativement peu de poids, mais au moins, en tout cas, on peut le considérer comme un encouragement à l'émerveillement pour les croyants, et d'une certaine manière, ça booste, si je puis dire, le psaume 8, et ça le traduit en termes modernes. Pour conclure, j'aimerais juste dire que c'est quand même une notion à manier avec précaution, en terminant avec cette petite caricature où on voit quelqu'un qui explique, comme je viens de le faire envers vous, toutes les merveilles du réglage fin de l'univers à un interlocuteur, n'est-ce pas, qui semble pensif et tout à fait intéressé par le discours du prosélyte. Et puis, malheureusement, le prosélyte conclut de manière un peu audacieuse. Par conséquent, Jésus a marché sur les eaux. Et l'interlocuteur lui dit « bien essayé », mais il n'est évidemment pas dupe. Alors, je dirais que, d'une manière générale, dans ce dialogue science-foi et dans ces arguments basés sur la science, il faut toujours être assez prudent de ne pas céder à ce que j'appellerais la tentation totalitaire, comme Jean-François révèle, parce que la science a, d'une part, un aura considérable, et cette réputation de quasi-infaillibilité, n'est-ce pas, ou en tout cas de convergence vers la vérité, une convergence parfaitement objective. Il faut quand même toujours se souvenir du fait que la foi ne se prouve pas par A plus B, et que vous ne pouvez jamais contraindre quelqu'un à une conclusion qui n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit, comme disait Robin Rive. Je crois. Voilà. Et puis, je termine aussi par un petit moment de publicité. j'ai écrit ce petit livre dans la série Croire Pocket. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par la question de la pluralité des mondes habités, j'ai sorti aussi ce livre en 2010 qui se trouve en bas. Voilà. Je vous remercie de votre attention.